Messieurs, bonjour, quel plaisir de vous retrouver pour Sportic. Eh bien, figurez-vous qu'on parlait Covid fin juin, et ben on parle toujours Covid début septembre, puisque nous ne sommes toujours pas dans notre studio préféré. On est encore chez nous. Alors j'espère évidemment qu'on n'aura pas de petits problèmes de son, mais toujours est-il que le principal, c'est mon Lionel, oui. On se retrouve.
Oui, on se retrouve. Et moi, je suis pas chez nous, je suis chez mon Ben.
Et si tu pouvais éviter de me cracher au visage quand même, qu'on respecte les trois petits.
C'est pas Covid.
Mon Lionel qui est là, Fréno La Science qui est toujours là avec nous. Ça va, Fréno ?
Bonjour à tous. Ouais, très bien, très très bien. Très heureux de vous retrouver.
Ah là là, bah toi, je pense, toi, t'es heureux de faire chez toi, tout simplement parce que t'as ton Federer qui est derrière toi, toujours dans le cadre. Et je pense que c'est la meilleure position. Gilbo qui est au travail. Gilbo, c'est un gros travailleur.
Ouais, parce que j'ai mon ordi au travail, en fait. C'est pour ça.
C'est pour ça. Merci, Gilbo, d'être là. On espère que tu feras une meilleure saison que l'an passé. Parce que,
ah bon ?
Voilà. On a eu les auditeurs, nous ont dit, on aimerait plus souvent Gilbo.
Ah ouais. Bah, moi, j'en ai eu, ils m'ont dit, il y a trop de Benoît. C'est marrant.
Ah ouais, d'accord, bizarre. Et Nico qui nous a promis d'être là tous les 15 jours cette année.
Alors déjà, dans 15 jours, c'est pas possible.
Eh bien, la rentrée sportive s'annonce bien.
Je suis pas en costard, mais je travaille aussi.
Voilà, ben, on espère que vos clubs respectifs, messieurs, dames, vous êtes un petit peu plus assidus que mes chroniqueurs. Mais en tout cas, on est là pour une heure avec vous et ça fait très, très plaisir. Évidemment, on a tout un été à débriefer. Il s'est passé, je vais pas vous mentir, il s'est pas non plus passé 15 000 choses, mais il y a eu des événements, certes perturbés, mais qui ont eu le mérite d'exister. Alors, moi, je vous propose, vous me dites si ça vous plaît ou pas, je vous propose de démarrer par une page Tour de France qui vient de s'achever il y a peu. Et peut-être en démarrant avec le départ, comme c'est bizarre. Mais cette première étape, moi, qui m'a posé problème à Nice. Elle m'a posé problème parce que j'ai eu l'impression qu'on revenait à un ancien cyclisme, à savoir un patron du Tour qui décidait de ce qu'il fallait faire et pas faire. Alors certes, c'était une étape dangereuse. Certes, il pleuvait. Certes, il y avait énormément de descentes casse-gueule où il y a énormément de personnes, enfin de coureurs qui se sont plantés. Mais comment, enfin, je trouve ça hallucinant qu'un mec ou une équipe décide, eh ben, on arrête de courir, on arrête la descente. Ouais, Nico ?
Bah, je suis pas sûr que ce soit la décision d'une équipe. Pour avoir lu les commentaires ensuite de plusieurs directeurs sportifs, tout le monde semblait unanime pour dire que c'était extrêmement dangereux. Donc, effectivement, peut-être les Jumbo ont pris l'initiative, cette initiative-là. Mais il aurait même fallu, à mon avis, arrêter totalement la course. Il se serait totalement arrêté. Ça n'aurait pas été scandaleux au regard des conditions qui semblaient totalement, impraticables. C'est même pour la santé des coureurs, quand tu vois comment ça glissait.
Les mecs se seraient arrêtés. Alors moi, je te dis, Nico, l'année dernière, on se rappelle tous de la neige sur la route, en tout cas les coulées de neige, et c'est la direction du Tour qui prend la décision très sage, évidemment, d'arrêter l'étape. Là, c'est une équipe qui décide, ou alors deux, trois équipes ensemble, hein, mais c'est une équipe. Est-ce que Prudhomme ne peut pas prendre ses responsabilités et dire « on stoppe l'étape » Moi, je trouve hallucinant.
Si, oui, là, oui.
Voilà, moi, je trouve hallucinant que ce soit une équipe ou un coureur, enfin, évidemment, ce n'est pas un coureur, hein, c'est plusieurs, mais qui décide de ça. S'il y en a dans ces 200 coureurs qui sont au départ, s'il y a des virtuoses de la descente, s'il y a des virtuoses de la pluie, s'il y a des mecs casse-gueule qui veulent aller gagner des secondes, eh ben, moi, je trouve dommage de priver ces types-là de ça. Fred ?
Concrètement, on s'est aperçu qu'effectivement les Jumbo, ils voulaient calmer le jeu parce qu'ils ont des coureurs qui descendent pas forcément très bien. C'est surtout en fait ce qui a fait très mal, c'est quand l'équipe Astana a voulu prendre justement l'initiative et que leur leader s'est pris un panneau. le fameux oui. Rodriguez hein, qui s'est pris un panneau. C'est vraiment ça qui a décidé, hein, parce qu'autrement, les Astana, ils faisaient la descente. Et ils auraient essayé de vraiment de mettre, enfin, ils allaient essayer de mettre le feu à cette étape. Donc concrètement, moi je trouve pas ça normal qu'une équipe décide d'arrêter. Le cyclisme, ça se court, bah ouais, il y a du vent, il y a de la pluie, bah on y va. Après, si effectivement les conditions sont trop dangereuses, c'est au responsable, au directeur du tour de prendre la décision. Mais c'est pas, en l'occurrence, c'était Martine qui faisait la police devant. Et franchement, bon, ce qui est dommage, c'est que Astana ont essayé, puis bah leur leader, malheureusement, il s'est planté. Ça fait une belle image d'ailleurs, cet atterrissage dans le panneau.
Ouais, bon, ça fait peur. Voilà. C'est vrai que ça fait peur. C'est vrai qu'il faut pas nier que ça fait peur. Il faut pas nier que c'est dangereux. Il faut pas nier tout ça. Mais soit la direction du tour, bah, on vient de le dire, hein, mais soit la direction du tour prend une décision sage et prudente, soit on laisse la course et à ce moment-là, chacun prend ses responsabilités. Jimbo.
On a l'impression que vous êtes en train de découvrir qu'il y a des arrangements dans le cyclisme. Toutes les courses, quand même, ça s'organise un petit peu. On laisse la victoire à ceci, cela, à certains. On s'arrange un petit peu. Alors, comme tu dis, c'est un peu un retour à l'ancienne. C'est peut-être un peu dommage, mais le vélo, le cyclisme, c'est un petit peu quand même comme ça. Hein. C'est pas d'après ce que j'en connais, moi.
Lionel ? Oui, je reprends un peu tes propos, Ben, parce que je pense qu'effectivement, la direction de course doit prendre ses responsabilités, auquel cas, si ce n'est pas le cas, si c'est une équipe, un coureur qui prend cette décision, il doit être sanctionné. Ce n'est pas lui, a priori, décider. Il n'y a pas eu de sanction sur telle équipe ou tel coureur.
Non, les sanctions, t'es trop dur. Si le peloton, c'est une bande de moutons qui veulent suivre une équipe, soit, mais moi, si j'étais un virtuose de la descente et un virtuose de la flotte, moi, j'aurais continué ma course, quitte à me foutre à dos la jumbo et la machin.
Ouais, mais là, c'est pas une.
Et par contre, Gilbo, par rapport à ce que tu dis, toi, on parle de la plus grande course du monde. Donc, les arrangements, là, tu me parles des critériums de Calac et des critériums du circuit de l'Aulne là-bas à Châteaulin, où on sait qui va gagner, qui va perdre. Mais là, on te parle de la course du monde. Donc, ce n'est pas un petit boui-boui dans une ambulance du coin où on se fait un petit marché. Ouais. C'était, ouais, Gilbo, par rapport à ça…
Vu le carnage quand même, le carnage de la première étape, bah, si l'organisation n'a pas été assez futée pour arrêter la course… Bah, les mecs, ils ont quand même pris leur responsabilité de dire bah, on arrête le carnage et puis on arrête de. Bah, ça devenait dangereux. Donc, c'est quand même pas si idiot quand même comme position. Quoi.
Voilà, c'est ça. Après, par rapport à la course, tu sens bien que tu as eu une telle pression sur le tour. Le fait que ce soit la première étape, le fait que ce soit à Nice, avec tous les intérêts qu'il y a autour, Prudhomme, effectivement, est-ce qu'il est en mesure de dire on arrête le spectacle et stop, on coupe la retransmission à 15h? Voilà, il y a d'autres enjeux. Mais. Alors, pour revenir sur ce que tu disais, si tu es un as de la descente et si tu es très à l'aise sous la pluie, là, le problème, c'est que le terrain est quasiment totalement impraticable quand même. Tu vois, les mecs, même sur la promenade des Anglais, même sur du plat, les mecs tombaient comme des quilles. Donc, ils auraient dû, effectivement, la direction aurait dû arrêter la course à ce moment-là. Mais je pense qu'il y avait beaucoup d'équipes qui étaient d'accord sur le fait de la neutraliser. C'est pas que, enfin, je ne crois pas que ce soit que les Jumbo-Visma qui se soient… Voilà, qu'on montrait les gros yeux ou les dents aux autres équipes et les autres, ouais.
Ils ont arrêté une fois que Pinot avait perdu la course.
Je te laisse la parole, Fred. Je dis simplement que moi, je ne comprends pas pourquoi il y a toujours des mecs par terre et toujours des mecs sur un vélo. Alex Zouleux, il a passé sa carrière dans le fossé. Et il y a des mecs qui sont… Armstrong ne s'est jamais tombé. Donc, à un moment, quand on parle de virtuose, ça existe quand même, Fred.
Bah, concrètement, ce qui est assez rigolo, parce que Gilles parlait de carnage sur l'étape de Nice, le carnage, il est essentiellement dû à une décision administrative, c'est-à-dire de plus comptabiliser les retards liés aux chutes à partir des 3 km. Parce que pour mémoire, c'est les Ineos qui ont roulé comme des sauvages jusqu'aux 3 km, et passé la ligne des 3 km, ils ont complètement levé, et si bien qu'il y a une vague derrière, et tous les Groupama sont tombés. Donc ça veut dire que en fait c'est une conséquence du nouveau
règlement,
on va dire, de la nouvelle réglementation qui a fait qu'ils sont tombés. C'est ça qui est assez dramatique quoi.
Ça se pétait bien la tronche avant quand même.
Et concrètement les Ineos, moi j'en suis persuadé, ils le font exprès. Hein. Ils roulent à fond les ballons et à 3 km pile, toc, ils arrêtent instantanément. Ils savent très bien que derrière ça va jamais pouvoir freiner.
Ah les salopards.
Et moi ouais, c'est stratégique aussi.
Ah ouais.
J'ai tout simplement omis de vous parler au niveau grands événements avant d'entrer dans les détails, parce que là, nous sommes déjà entre grands spécialistes de vélo. Mais sur les grands événements, qui a souffert le plus d'un certain huis clos? Est-ce que vous pensez que le Tour de France a souffert de son manque de popularité dû au Covid? Est-ce que vous trouvez que le championnat de France souffre actuellement de cela? Est-ce que vous pensez que Roland Garros souffre de cela? Qui souffre le plus pour vous, Fred?
Clairement, c'est Roland Garros, hein, parce que c'est pathétique. Oui, c'est pathétique de les voir jouer.
Ouais, mais c'est pas le huis clos, c'est le changement de saison aussi.
Surtout. Ah ouais, c'est ça. Et t'as raison, ouais, c'est
un ensemble, mais.
Mais c'est pathétique, quoi.
Ouais, c'est clairement, bien, c'est tu respectes. C'est... Ouais, Lionel ?
Oui, dans l'ordre, c'est vrai que je dirais que le Tour de France nous a pas semblé vraiment souffrir de ces problèmes. On a vu plein de monde avec des masques, mais en fait, plein de monde. Le même au niveau médiatique, ça s'est très, très bien passé. Bien fait, ouais. Le championnat de France, je craignais le plus en Ligue 1. Et puis finalement, c'est moche, mais ça passe. Ouais, c'est vrai que le tennis, là, il morfle. Là.
Mais regarde, Lionel, ce que tu dis par rapport à Fred, par rapport à ce que vient de dire Fred, c'est-à-dire que le Roland-Garros est en train de souffrir de la saison. Elle est en train de souffrir de septembre.
Plus, je pense.
Forcément, hein, moins de chaleur, moins de luminosité, moins de tout ce que tu veux. Et ben le Tour de France s'est déroulé là en septembre. C'est pareil, hein, faut les affronter l'école en ce moment. Hein. Faut l'affronter la pluie, le froid. Et ben je trouve que le spectacle. Ouais,
cette année, il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas de froid. Cette année, au mois de septembre, quand ils sont arrivés à l'étape au col de la Lauze où ils arrivent à 2003-2004, il aurait pu neiger.
Ouais, tout à fait.
Et il montait en chemise et enfin il montait en liquette et il n'y a aucun problème cette année par rapport à la pluie. Bah, je trouve que les matchs de foot quand même.
Spectateurs, tout le monde n'était pas en t-shirt. Hein.
Ouais, les mecs sur le vélo aussi, c'est pas ce qui les a dérangés. Les matchs de foot à huis clos, c'est pareil, c'est un. Je pense pas que ce soit particulièrement emballant. Ouais. Une nouvelle.
Gilbo.
Ouais, le plus dur quand même, c'était les Jeux Olympiques. Si tu n'avais pas de spectateur, tu n'avais pas d'athlète. Hyper compliqué, c'était un peu ennuyant.
Ah, il la prépare, le salaud, ça fait déjà 2 minutes qu'il levait la main pour nous dire ça.
Ouais, Fred. Non, bah, ça se travaille, la radio, les gars.
Non, clairement, le football, ils ont trouvé la parade en nous mettant les fous applaudissements, la fausse ambiance, ce qui fait que le téléspectateur n'est pas perturbé. Alors qu'au niveau du tennis, il faut qu'il fasse quelque chose, parce que ça devient…
Il faut qu'il fasse quelque chose, tout à fait. Mais t'as vu l'intelligence, pour une fois, on peut le signaler quand même, l'intelligence du monde du foot qui arrive à te mettre des cris de supporters pile au moment, allez l'OL, limite bravo Umtiti ou des trucs comme ça, alors que bah, c'est pas possible. Quoi. Comment, ils ont une bande-son pour chaque événement, pour chaque dribble, pour chaque but, pour chaque sur chaque club. Moi, j'ai trouvé ça impressionnant en foot. Ouais, c'est très bien fait, très, très bien fait. Et par contre, il y a une chaîne, parce que quand on regarde les matchs, vous avez je sais pas laquelle, d'RMC qui diffuse les matchs avec cette fausse ambiance, et une autre chaîne d'RMC qui te diffuse le match sans l'ambiance. Oui. Bon, bah, c'est mortifère. Hein. C'est comme Roland Garros, c'est mortifère. Il y a moins de crevés. Mais revenons, messieurs, revenons. Vous m'avez dit que le Tour de France n'avait pas trop souffert de l'ambiance. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, est-ce que tout le monde a respecté les gestes? Ça, j'en sais rien. Mais moi, j'ai quand même vu du monde dans l'école. J'ai trouvé ça très sympa. Donc, ça amène évidemment à la question toute bête. Est-ce que vous trouvez qu'on a vécu un beau Tour de France? Est-ce qu'on est
non, contre... chiant.
Nico, chiant.
Lénifiant. Bah, sur la fin, je me suis surpris à ne plus regarder. Avec autant de ferveur que les années passées. Ben non.
Non. Ah ouais, tu vas jusque là, toi.
Mais contre la montre, t'as fait chier, toi.
Ben, j'ai pas vu contre la montre. C'est la seule étape que je n'ai pas vue parce que j'étais avec Benoît, je crois bien, ce jour-là.
Oui, voilà, exactement.
Pour un déménagement, okay, c'est la seule.
T'es dans le clan de. Oui, le tour a perdu. Enfin, qui ne t'a pas plu, Gilbo?
Ah si, bah le tour a été quand même assez exceptionnel avec le renversement de situation et compagnie là.
Mais moi je suis d'accord.
Je suis pas ennuyé. Parce que les Tours de France, je vais te dire, je sais pas ce que t'as, mais il y a quand même un paquet d'années où on attend la grande bagarre. Et puis t'as Bardet. Alors bon, c'est quand même. Non, il y a eu des attaques. C'était assez sympa. C'était tonique. Non, moi ça m'a plu. Hein,
Fred en premier.
Non, clairement, moi j'ai déjà les Français rapidement, ils ont été hors course, donc ça c'était vraiment pénible.
Ouais, ça c'était dur, ça je suis d'accord avec toi.
Ensuite, la Jumbo Visma, voir Van Aert qui roule, qui fait les sprints, qui grimpe mieux que les autres, etc. Ça a quand même des relents de Festina de la mauvaise époque. Donc ça c'est assez triste. Franchement, ouais, j'ai pas trop adhéré. Si ce n'est, j'ai bien aimé l'attitude de Sagan et de Bora qui ont essayé vraiment par tous les moyens de compenser les difficultés de Sagan. Ça, c'était plutôt agréable.
Ouais, je sais pas. Bah, les difficultés de Sagan, elles sont ce qu'elles sont. Hein. Tu tombes sur une grosse génération de sprinteurs. La Bora, c'est pas une équipe qui va te faire non plus rêver sur le Tour de France. Elle est pas là pour ça.
Mais ils ont essayé quoi. Au moins, c'était intéressant.
Moi, je suis comme Gilbeau. On s'est tellement emmerdé. On a gâché tellement de mois de juillet à regarder rouler la Ineos. Et pourtant, j'ai pris mon pied, moi, tous les ans. Hein. Mais à chaque fois, il se passait quand même relativement rien. Et ben, pour une fois cette année, comme l'an passé avec le fameux Alaphilippe et compagnie, mais cette année, il y a quand même eu des trucs. Il y a quand même eu des. Même si la Jumbo a verrouillé un petit peu aussi. Mais
un petit peu, ils ont fait que ça, Benoît. Ça a été.
On a eu un retournement de dingue à la fin.
Mais sur l'avant-dernière.
Pogacar, il a attaqué tous les jours. Alors qu'Ineos, personne n'attaquait.
L'étape la plus intéressante que j'ai vue, c'était une étape à Millau. Ça partait de Millau. Et c'est justement l'équipe Bora qui a essayé de mettre dans le rouge, qui a sorti ce jour-là Sam Bennett. Ouais. Et dès le départ, ils ont vissé sur des. C'était pas une étape de col, c'est une étape relativement vallonnée, mais pas une étape de col. Et ça a été intéressant. Ça a été la seule étape vraiment intéressante en termes de stratégie et de. Voilà, les autres. Les jaunes roulaient devant. Pogacar s'attaquait. Alors, ça s'accrochait tant qu'il pouvait y essayer d'attaquer, mais au final, on peut pas dire qu'il y ait eu des étapes qui nous ont fait lever notre siège.
Ouais, au moins tu gâchais pas ton après-midi à la plage, quoi. C'est l'avantage de septembre.
Fred. C'est vrai. Non, mais je suis 100% d'accord avec Nico d'un point de vue cyclisme ou vélocipédique. Ouais. La Bora, c'était du beau cyclisme. Ils ont essayé de faire des choses.
Ils ont essayé, voilà.
Voilà. La Jumbo, c'était dégueulasse. Je dis, quand tu vois Van Aert qui fait 78 kilos, qui monte les cols plus mieux que les grimpeurs, il fait quand même le troisième temps à la montée de la planche des Belles-Filles. Enfin, je veux dire, t'as juste ses boules, quoi. C'est ça qui est moche. C'est que le gars, qu'il soit fort sur un effort d'une heure, qu'il soit bien sur le plat, tu comprends? Bon, le mec, il grimpe, il sprint, il descend, il va chercher les maillots. moi, j'ai eu peur qu'il s'inscrive à Roland-Garros. J'ai eu très, très peur. Parce que là, je disais…
Et encore le soir, il était obligé de réparer les vélos. C'était
Bien sûr, et faire les machines.
Sauf qu'Alaphilippe l'a quand même bien battu au championnat du monde.
Ah, mais là, c'est très, très bon stratégiquement. Parce qu'Alaphilippe, ce n'est pas le plus fort au championnat du monde. Il est mort dans la dernière côte, mais il y va au bluff. Et comme personne ne veut traîner Van Aert sur son porte-bagages, il gagne comme ça.
On va en parler. On va avoir
un petit page
championnat du monde, Nico.
Ouais, juste une chose, si on a terminé sur le Tour de France.
Non.
Une info de dernière minute. Tour de France 2021.
Oui.
Qui fera une étape en Mayenne, à Laval même.
Ah bon ?
L'étape qui arriverait à Laval serait un contre-la-montre individuel autour de Changé. Un départ à Changé.
Non.
Et une arrivée à Laval pour un contre-la-montre de 50 bornes.
Autour du plan d'eau ?
Autour du plan d'eau.
C'est
sorti sur France Bleu tout à l'heure.
Oh, incroyable. Là, c'est un coup de tonnerre là, dans les cieux sportifs mayennais. Génial. Ah, là, on va en profiter. Non, est-ce qu'on avait fini sur le tour ? Non, messieurs. Parce que moi, le chauvinisme m'agace. Même s'il me fait rigoler, hein. Parfois ça m'agace quand ça va trop loin. Quand on se prend d'amour pour son équipe favori, ça me va, qu'on supporte à mort son équipe. Mais par contre, là, moi, je trouve que ça va beaucoup trop loin. Quand c'est un Slovène qui est devant, et c'est non-stop, on vous parle de dopage. Quand c'était Alaphilippe l'année dernière, il n'y a pas un qui ouvre sa tronche pour dire quoi que ce soit. Alaphilippe, soi-disant, qui est un puncher, qui allait gagner en haut du Tourmalet, qui allait gagner un contre-la-montre, qui allait gagner, qui finit cinquième du Tour de France. Personne discutait là. Et là, bizarrement, c'est les Slovènes. Alors, tout n'est pas… on est d'accord, hein, vu les directeurs sportifs qu'ils ont. Évidemment qu'on discute. Mais pourquoi, quand c'est les Slovènes, on cause? Et pourquoi, quand c'est les Français, on ne parle pas? Soit on parle tout le temps, soit on ne parle jamais. comme fait Lolo Jalabert, tiens, très intelligemment, vu ce qu'il s'est mis dans la gueule, lui, au moins, il ferme sa gueule tout le temps sur le dopage. Ouais.
Fred. Ouais, non, on en parlait moins, mais on en parlait quand même. L'an dernier, la Quickstep a été contrôlée, ils ont eu les flics, etc. Il y a eu des enquêtes de fait, etc. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de suspicions derrière la meilleure équipe du monde, quoi.
Ouais, mais peu par rapport à ce qu'il est en train de manger Pogacar et de ce qu'ont mangé les Jumbo, moi, je trouve qu'il y a eu… On a beaucoup, beaucoup moins parlé là, de tout ça. Et je trouve ça, moi, malsain.
Ouais, Nico, c'est pour lancer Nico, parce que c'est ce que tu nous as transmis l'autre fois. Là,
je voulais parler de ça.
Ouais. Je savais que tu en parles, ouais, effectivement. Ouais. Je ne suis pas animateur, mais je me permets de suppléer. Oui,
tu vas rester à ta place, surtout.
Pour ceux que ça intéresserait, allez voir le site d'Antoine Vaillet et d'un autre physio dont j'ai mangé le nom, ChronoWatt. Voilà. Oui. ChronoWatt qui explique que les mecs avec des telles intensités, avec des mecs comme Van Aert et Pogacar et compagnie, c'est clairement, ils utilisent le terme de surhomme. Par rapport aux puissances qu'ils développent, ça devient. On retrouve ce que disait Fred tout à l'heure, on retrouve le cyclisme des années Armstrong, Landis et compagnie. On est exactement sur la même chose.
Ok. Mais cite-moi des Français aussi, Nico. Tu me cites que des étrangers. On est tout le temps en train de parler des étrangers, comme quoi nous, notre cyclisme est extraordinaire. Ben non, notre cyclisme, je pense pas qu'à… Enfin, Alaphilippe, moi, l'an passé…
Je rejoins Fred à propos d'Alaphilippe, c'est une autorité publique qu'il est. Enfin, t'as vu comment… Effectivement, c'est un puncher, mais l'an dernier, quand il gagne contre la montre, quand il gagne ses deux, trois étapes, quand il suit tout le monde en haute montagne, c'est pareil. Voilà. Ouais, sauf que depuis 2000, je sais plus, mais depuis 2012, on veut pas de cas positifs sur le Tour de France. Faut clairement le dire aussi. Tous les contrôles sont négatifs depuis 2012 sur le Tour de France.
Et bon, ça, c'est bien. Ça, c'est bien.
C'est pas mal.
Est-ce qu'on peut dire pour autant, est-ce qu'on est certain que même les équipes, alors je pense qu'il y a Bernaudot en Vendée qui fait c'est hyper propre, mais même des Groupama si quand même. Enfin, j'ai lu des trucs, ça a l'air un peu moins. Mais on n'est pas pour autant sûr que les autres sont propres. On n'est pas sûr non plus que les autres sont sales. Mais bon.
Aucune certitude, effectivement. Par rapport à ce qu'ils peuvent annoncer, clairement, la Dukkanen Quickstep ou les Jumbo, clairement, par exemple, sur un point précis, ils disent qu'ils marchent au cétone. C'est des substances assez particulières qui sont interdites dans certaines équipes. La Groupama les a interdites, par exemple. Voilà.
Et après, on s'étonne. Je te laisse la parole, Fred. Moi, je ne veux pas tomber dans le débat de tous dopés ou pas tous dopés. On n'est pas au café du commerce. Moi, je veux simplement vous dire que l'étranger n'est pas plus méchant que le français et inversement. Donc, moi, ça m'agace qu'on tape sur l'étranger. Ouais, Fred.
Bah si, moi, si tu veux, c'est pas le fait de taper sur l'étranger. Moi, c'est pas une surprise, mais c'est pas étonnant de voir apparaître des Slovènes, de voir apparaître des nations qui sont où les coureurs sont peut-être prêts à faire plus, à prendre plus de risques ou plus de dangers en termes de préparation, si on voit ce que je veux dire, que certaines nations. Ça s'est mondialisé le cyclisme, mais aussi on se retrouve confronté avec des nationalités où les gars, bah, ils y vont un peu plus parce que c'est aussi un moyen de s'en sortir. Donc ils prennent moins de pincettes, il y a moins de, il y a moins de contrôle, c'est moins, ils prennent plus de risques.
Clairement. Bah oui. Et quand tu vois la Slovénie, il y a 1600 licenciés cyclistes, et ils arrivent à sortir deux mecs d'exception.
Ouais. Tu le sais très bien, Fred, qu'en Suisse, c'est pareil. On a deux tennismen extraordinaires depuis 10 ans. Bon, enfin, 20 ans pour l'autre. Mais voilà, c'est peut-être des histoires de génération. Attention, je ne suis pas non plus le mec crédule pour tout. Mais ce serait côté français, ce serait juste une histoire magique. Ben, c'est côté slovène.
Tu vois, Benoît, prends juste un exemple. Prends tous les coureurs qui ont brillé dans les équipes étrangères. On va prendre le sprinter qui était à la Quickstep l'an dernier, Viviani. Il signe dans une équipe française, il ne met plus un pied devant l'autre. Tu prends Barguil, il était à la Sunweb, il écrasait tout. Il est en France, il galère très très fort, alors qu'il a beaucoup de qualité, pour avoir des résultats décents. Donc tu sens quand même quelque part. Bon, voilà.
Ouais, on va voir Bardet la prochaine qui part à la Sunweb.
Les hommes de la seule. On va clore notre sujet Tour de France en vous posant cette petite question, messieurs. Vous allez essayer de réfléchir rapidement. Moi, j'y ai pensé tout l'après-midi. On s'est quand même prodigieusement ennuyé sur toutes les années Banesto de Dean Durain. On s'est prodigieusement ennuyé sur toutes les années Armstrong avec son US Postal, puis ensuite avec la Trek, puis ensuite avec les Ineos, puis et blabla et blabla. Là, on va s'ennuyer, je pense, des années avec la Jumbo. Qu'est-ce qui pourrait sauver ce sport? Qu'est-ce qui pourrait sauver ce sport? J'ai deux petites réponses. Vous en avez peut-être d'autres. Ah ouais, Nico, tu as déjà une idée. Qu'est-ce que tu réfléchis vite pour
Nico? Limite, on en a parlé ensemble l'autre jour sur le vélo. Limiter le nombre d'équipiers. Ne plus avoir des équipes à 8, mais des équipes à 6, par exemple. Il y aurait bien moins de contrôle des courses.
J'avais oublié qu'on avait réfléchi à ça. Ouais, c'est pas mal du tout comme proposition. Fred ?
Bah, enlever les oreillettes.
Voilà. Moi, j'étais là-dedans aussi. Alors, ça peut paraître une banalité parce que ça fait longtemps qu'on en parle, mais mine de rien, elles sont toujours là, tout le temps. Et tu continues à voir les mecs sans arrêt, ça cause à l'oreillette. Ben, ça jouerait énormément, je pense. Et j'ai une autre proposition, peut-être plus radicale, et qui pourrait aussi tuer peut-être le vélo, mais c'est rendre ça individuel. C'est-à-dire terminer les équipes. Et ben, on fait comme en athlée, les mecs, ils courent pour leur tronche. Et ben, là, en vélo, ben, tu roulerais pour ta tronche. Dans la Jumbo Visma, t'es tout seul avec.
En fait, ce qu'il y a d'intéressant au vélo, c'est les travails d'équipe, ouais, c'est la stratégie. C'est pour ça qu'on regarde.
Fred, ben, je ne suis pas sûr, moi, Gilbo. Fred.
Ouais, et ça serait génial parce que dans ces cas-là, pour le gars, pour redescendre chercher ses bidons, il y aurait donc 80 voitures derrière.
Ça, c'est non, pas mais mal. Pour y avoir, enfin, j'en sais rien, du coup, on réfléchit en vitesse là, mais pour y avoir plus de relais sur le côté, justement, qui te donne les bidons, les choses comme ça. Mais là, on pourrait se dire, c'est le mec, c'est son exploit personnel, c'est pas l'exploit de machin qui m'a amené. Combien de fois on a entendu dire dans l'équipe de Froome, c'est Richie Porte qui a amené Froome, c'est Lambda qui a amené Froome, c'est machin. Eh ben non, c'est pas vrai, c'est Froome qui a pédalé. Gilbo et Fred ensuite.
Ouais, justement, par rapport au cyclisme et équipe, pourquoi dans ce cas-là, alors on nous rabâche les oreilles sans arrêt, c'est un sport d'équipe. Bon, après, avec Pogacar, si on se demandait. Dans ce cas-là, c'est l'équipe qui monte sur le podium et puis c'est l'équipe qui a gagné. Et on enlève le sport individuel. En fait, c'est quand même, on dit que c'est l'équipe, mais
ça, Ça, c'est pas mal. Fais monter ton équipe.
Ouais, je trouve qu'il y a une ambiguïté quand même. Je ne comprends pas trop.
Ouais, tout à fait. Fred ?
Faut pas oublier qu'il y a toujours un classement par équipe où les gars, ils ont la fameuse casquette jaune de la meilleure équipe. Avant, c'était bien plus mis en valeur, hein.
Ouais, sauf que comme dit Lionel, on s'en fout royalement de la meilleure équipe. Moi,
j'avais une autre proposition pour le Tour de France.
Ah.
C'était de ne pas faire de haute montagne. De faire que la plaine et la moyenne montagne pour voir des stratégies se mettre en place. Un peu comme Labora a fait en essayant de jouer sur les bordures, etc. Et là, ça éviterait, ça obligerait les équipes à mettre en place des stratégies, à rouler différemment, etc. Ça pourrait être intéressant.
D'accord, ah ouais, c'est Lionel, ouais.
J'irai même plus loin, Fred, je suis d'accord avec toi, mais on enlève aussi la plaine et on garde que la. Non, parce qu'on se fait chier aussi sur la plaine.
C'est vrai.
Des étapes de 5 heures où il ne se passe rien à part les. C'est comme la F1, tu regardes le début.
Carrément.
Donc on garde que la moyenne montagne.
Tu mets que 5 mecs par équipe et tu mets plus de haute montagne et là tu auras des courses intéressantes.
Moi, j'irai encore plus loin. Je demanderai au mec de s'arrêter au feu. Je pense que ça pourrait vraiment dynamiser la course. Et puis prendre l'autoroute et puis s'arrêter au péage aussi.
On va se marrer, dis donc.
Et au passage à niveau.
On a été assez complet. On va peut-être laisser tomber, tant pis, le championnat du monde. Je ne sais pas si on peut se permettre avec un champion du monde français.
Un petit cocorico.
Moi, il me pose souci que ce soit la Philippe. Ça me pose quand même un petit souci parce que bon. Et j'ai entendu l'autre jour un débat sur les fameuses chaînes qui débattent toute la journée sur est-ce que Alaphilippe est une légende. Eh ben, pour moi, ce n'est pas du tout une légende pour l'instant. Il a inscrit son histoire sur le Tour de France, c'est vrai, en jaune, une certaine partie. Ce maillot arc-en-ciel, il est formidable, mais une légende, on est quand même très, très loin. Lionel.
Oui, juste pour revenir sur le propos de tout à l'heure où tu parlais du est-ce que le Tour de France a souffert du Covid ? On a dit non parce que franchement, c'était une réussite. Par contre, est-ce que le championnat du monde a souffert du Covid ? Ah oui. Là, ceux qui ont regardé, c'était triste, mais triste du début à la fin. L'entourage, l'arrivée, tout était triste.
Aïe, 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 Fred.
Voilà, je suis assez d'accord avec Lionel. C'est vrai que quand tu arrives, tu lèves les bras, il n'y a personne. Ouais. C'est. Ouais, 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 ouais. J'ai le souvenir de Bernard Hinault à Sallanches qui lève les bras, c'était fabuleux. Tout le peuple français l'attendait, là, t'avais l'impression. En plus, sur le circuit d'Imola, t'attendais les Ferrari ou un truc comme ça, quoi. Donc, c'est les trois derniers kilomètres, c'est pathétique aussi, ouais.
Ouais, 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 ça doit être dur. Mais par contre, l'émotion, il l'avait. Hein.
L'émotion est belle quand même, et le champion est beau. Légende, ouais, non, ouais. Il n'a pas encore le palmarès d'un.
Quand même.
Il n'a pas le palmarès d'un Hinault pour être une légende.
Bien sûr.
Bon, alors Nico, tu vas nous dire les critères pour être une légende alors du vélo. Comme tu dis, un Hinault, qui on peut citer ? Nous, on peut citer évidemment notre Poulidor. On peut citer les Merckx, les Anctil. Qu'est-ce que toi, tu mettrais en numéro 1 pour être une légende ?
Il y a plusieurs victoires sur le Tour de France. Ça reste l'épreuve.
Voilà. Ah ouais, carrément. Bah, putain, ça va pas avec Poulidor. Alors. Fred ?
Ouais, je suis d'accord avec Nico, il y a le palmarès, c'est indéniable. Mais pour moi, par exemple, Sagan, qui a 3 titres de champion du monde consécutifs sur route, c'est une légende. C'est-à-dire, c'est quand même c'est énorme. Pour faire ça, il faut être énorme. En plus, la façon dont il gagne, hein, 3 fois différentes, il faut assurer. Donc ça, ouais. C'est important.
Donc le palmarès, forcément, vous ne pensez pas, ben, quand tu parles de Sagan, c'est intéressant, vous ne pensez pas que la personnalité du gars, elle est importante aussi. Ouais. Cette fameuse personnalité de Poulidor, là, où on voyait un petit peu le paysan contre la société capitaliste, ainsi de suite, bourgeoise, tout ce que tu veux. Ça faisait un peu lutte des classes. Et Sagan, ça fait un peu la superstar, la Mario Cipollini aussi, les genres de mecs comme ça, Fred.
Ouais, mais Poulidor, c'est suranné. Je veux dire, c'est désuet. Il a joué là-dessus. Faut pas oublier qu'à la base, c'est un gars qui a gagné beaucoup de courses aussi. Hein. C'est ouais, pas non plus.
Il y a un palmarès.
Voilà. Et après, il a joué sur le fait, effectivement, de faire ses podiums Tour de France. Ça a été l'anecdote. Et puis, il a vécu là-dessus. Et puis, c'était l'image aussi de la France qui ne gagnait jamais. On est passé outre ça. Je pense que. Il n'y aura plus de l'amour du numéro 2, numéro 3, j'y crois pas. Quoi.
Est-ce que c'est vraiment une légende cycliste ? Est-ce que Poulidor, c'est vraiment une légende cycliste ?
Mais bien sûr, Nico.
Moi, je suis pas d'accord.
Mais à 90% des Français qui ont plus de 50 ans, ils vont tous te citer Poulidor, tous. Si ça, c'est pas une légende, bah merde, c'est quoi ?
Bah, c'est quoi tes critères pour toi ?
Bah moi, critère, mais c'est bien, mais Poulidor, pour moi aussi, c'est une légende. Le mec, il a su jouer de son personnage, comme tu dis, Fred, il a su jouer de ses secondes places, il a su jouer de ce côté paysan contre la machine à fric et compagnie. Il a su jouer ça, c'est bien joué de sa part, c'est très bien joué. Mais je trouve Sagan tout aussi fabuleux à jouer avec son physique de beau gosse, à jouer avec ses cabrioles sur son vélo parce que le mec est surdoué, à jouer. Moi, je respecte tout ça, je respecte. Ça,
ouais, Sagan, il n'a pas que le personnage.
Bien sûr.
Sagan, il est double, triple champion du monde.
Triple,
ouais.
Voilà. Oui, non, mais Poulidor, Fred, il te le dit aussi. Poulidor, il a gagné énormément de choses. Et c'est pas non plus pimpin de service. Hein.
C'est pas le pimpin, mais il a pas le palmarès de.
Non, de Sagan.
D'accord. C'est Lionel, ensuite c'est Fred.
Oui, non, mais je reviens sur ton exemple de Poulidor parce que finalement. Qu'est-ce que c'est qu'une légende si ce n'est quelqu'un qui maintient sa notoriété après son arrêt, histoire de 10, 20 ans. Après, on peut dégoiser sur les critères, mais après, c'est ça, avant tout, c'est la notoriété qui est maintenue.
Ça fait vraiment Lionel. Fred.
Alors moi, la question que je me posais, c'est est-ce que Zotomelk est une légende aux Pays-Bas ? Non, ouais. Mais c'est parce que le roi de la deuxième place, c'est quand même lui.
Est-ce qu'il a su en jouer comme
il a été vainqueur, lui. Hein.
Oui, il a été vainqueur.
Il a été vainqueur. Mais il a été.
Il a été 5 fois deuxième. Gilbert.
Il est vraiment pas malin.
Gilbert, oui, tu voulais intervenir.
Non, c'était ça. Je voulais dire que Zotomelk avait gagné.
C'est bien dommage pour lui. Voilà. Alors, on s'excuse peut-être pour cette grande, grande page vélo, mais c'est une passion. Et le Français doit évidemment se retourner sur son beau Tour de France. Donc, tu nous confirmes, Nico, sur toutes tes petites nouvelles, que Laval est ville étape l'an prochain, ville arrivée.
Sur le site Radio France Mayenne, ça a été apparemment, ce serait le sur le fil d'info Google que je suis en train de consulter actuellement. C'est annoncé comme tel, effectivement.
Ah bah c'est super, on a des infos en direct, c'est incroyable.
Donc,
c'est incroyable.
Comme ça,
je savais pas que le dimanche matin, moi, il y avait des choses aussi importantes qui tombaient, c'est super. Et on va tout de suite, avant d'affronter la Ligue des Champions, puisque le tirage de Rennes a été fait, mais on vous laisse en suspens, on vous laisse en suspens. On va attaquer notre Roland-Garros. Moi, je vis un Roland-Garros catastrophique. Alors déjà, ça fait quelques années que même au mois de mai, je m'ennuie un peu. Là, je me morfonds, je regarde pas les matchs, je sais pas qui est qui déjà, et c'est juste ennuyant. Comment vous trouvez votre Roland-Garros, monsieur Fred ?
Moi, j'ai juste une pensée pour Rog, qui doit être dans son canapé, qui a pris 5 kilos ou 10 kilos, qui doit même pas regarder non plus tellement c'est moche.
Ah ouais,
la sagesse incarnée.
C'était et heureusement qu'ils ont couvert le Châtrier. Heureusement, sinon le Roland Garros, je sais pas quand tu le joues, je sais pas à quelle heure tu le joues, je sais pas si dure 3 semaines ou 1 mois, parce que là il y a la flotte à affronter, il y a la nuit à affronter, il y a le froid à affronter. Et je regardais l'autre jour celui qui était face à Benoît Paire. Putain, il est en train d'effacer les lignes blanches de fond de cours. Le mec glisse et glisse et glisse et il dit on arrête. Et non, ça continue, Wilfred.
Ouais, puis on a vu Azarenka qui refusait de jouer, qui était en survêt avec la veste et tout, qui disait non, dans des conditions comme ça, on ne joue pas. Ça fait peur, quoi.
Ouais, ça, et t'as un vent, il combine tout. Il y a eu certaines journées, il combinait vent, il combinait pluie. Mais moi, pour moi, la pluie, je croyais que c'était rédhibitoire. Je croyais que ça s'arrêtait tout de suite aux premières gouttes de pluie. Ben non, tu vois les gens dans les tribunes, donc le Châtrier est couvert, mais ils sont pas tous couverts. Donc tu vois les gens dans les tribunes, ils sont parapluies, ils sont doudounes, ils sont machin. Et les mecs sur le terrain, c'est un peu la patinoire aussi. Donc à la Prodome, sur ce fameux Nice, est-ce que par moment, il faut pas aussi savoir arrêter la journée, Gilbert?
Roland-Garros souffre de deux choses en particulier. Le manque de public, ça c'est clair. Et surtout le public qui pousse des Français. Et puis là, c'est l'hécatombe complète chez les Français. C'est ce qui nous plaît quand même à Roland. C'est toujours. Bon, là, il y a Hubert Gaston là, qui sort du chapeau, là, mais c'est ça qui est hyper triste, quoi. Parce que si tu avais des Français qui, à la limite, pouvaient profiter de l'opportunité, je suis sûr qu'on serait. Je sais que tu n'es pas très patriote, Benoît, mais ce serait quand même. C'est ça, on souffre énormément là-dessus.
Mais ne dis pas ça. Moi, Gilbert, je suis très patriote. Je veux pas simplement être chauvin stupide. C'est Fred, je crois, et Nico après.
Bah, c'est surtout que nos Français, ils sont à l'image du tournoi. C'est-à-dire triste, pathétique, etc. On aurait dit des vétérans, là. On a vu Gasquet se pointer. Il a la condition physique de Laurent Huguet, quoi. mon fils.
Pour ceux qui connaissent.
Ouais, mon fils, c'était pathétique. Benoît Paire, bon bah ça fait un mois et demi qu'il est dans sa consignée dans sa piole d'hôtel, donc bon déjà en temps normal c'est pas une foudre physiquement, mais alors là c'est n'importe quoi. Donc j'ai cru qu'ils allaient remettre Sébastien Grosjean sur le terrain, quoi. Des commentaires ou sur le terrain, quoi.
Ouais, Benoît Paire il a quand même consigné chez lui avec Scheim ou je sais pas comment il s'appelle. Moi. Nico.
Non, mais c'était pour dire exactement la même chose que Lionel. Il y a le niveau des Français est pitoyable, mais en même temps, ce n'est pas une nouveauté. On a l'impression que les mecs, ils ont arrêté de jouer pendant tout le Covid et les excuses, c'est « j'ai pas de niveau, je suis en manque de jeu, je suis en mal ». Enfin, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 4 mois, les mecs? Il y a quand même une… Les rations de tennis, je ne sais pas ce qu'ils doivent faire, mais c'est pitoyable.
Ouais. Après, moi, je pense que si on a un team Nadal la semaine prochaine, là, en demi-finale ou quelque chose comme ça, on va quand même accrocher. Je pense que ça peut être très intéressant et on va avoir quand même des chocs. Donc, je pense que la deuxième semaine, attention, on en reparlera dans 15 jours.
J'attends le contre-la-montre.
Tu dis un team Nadal, il va jouer en double. Team avec qui, du coup? Nadal avec qui, du coup?
Contre Nadal.
Ah non, team, le joueur, hein, il pas l'équipe.
Ouais. Non, il y aura même un. Si tout se passe bien.
Ouais.
Si tout se passe bien, je crois qu'il y aura un team Wawrinka en 8e.
Ouais, bah dis donc.
Il va falloir son pesant de cacahuètes parce que Wawrinka, dans ces conditions-là, il peut être très fort.
Ah, le Suisse est taquin.
Ah, le Suisse, c'est surtout bourrin. Donc, quand il faut taper dur. Donc,
Et puis surtout, à Roland-Garros, il n'y a pas de Slovène. Hein, donc, c'est quand même. C'est quand même hyper emmerdant.
Mais. J'avais vraiment peur de Van Aert.
De Van Aert.
Eh bien, messieurs, on s'ennuie tellement devant ce Roland Garros qu'on ne va pas en faire des heures et des heures. On va tout simplement passer à notre petite coupure et on se rejoint juste après avec des sujets tout aussi passionnants que le tirage de la Ligue des Champions. Oui. Qui arrive, mon Lionel, oui. Arrive. Red. Allez, à tout de suite, messieurs. Sur votre émission préférée du parcours télé-radiogénique français, on est tout simplement sur Sport Épique qui continue. Radio Sport Épique, l'autre radio, évidemment, on va tout de suite, parce que là, vous l'attendez, vous n'en pouvez plus, on va tout de suite parler de Rennes. Rennes en Ligue des Champions, Rennes a eu son tirage. Gilles Beau, notre spécialiste rennais, va nous dire si c'est un bon ou un mauvais tirage. Est-ce qu'on a évité les épouvantails? Est-ce qu'on a quand même tiré du lourd? Gilles Beau, c'est à toi. Passionne-nous sur ce tirage.
Bah déjà, en tant que supporter rennais, c'est vrai que tu nous reprochais un peu l'année dernière d'être un peu fade, enfin pas trop d'enthousiasme avec la qualification. Mais là, quand j'ai regardé le tirage au sort jeudi, bah, en fait, j'étais hyper content de pouvoir que ce soit Rennes, quoi.
Ça ouais, fait quand même.
Question.
Bah ouais. Quand même.
Et donc sur le tirage, c'est quand même intéressant.
Est-ce que tu l'as vécu ce tirage avec une petite pression, comme tu dis là?
Non, sans pression, parce que tu as juste une curiosité et puis tu es concerné, donc c'est sympa, quoi. Ça nous change de Lyon et compagnie, bon, c'est bien. Et
alors,
après, clairement, j'annonce Rennes favori là, dans les poules.
Bah, dis-nous les équipes.
Que, ils tirent le chapeau 1 avec Séville, mais qu'ils ont déjà tapé en Ligue Europa. Je vous le rappelle. Alors, thème de finale de Ligue Europa il y a 2 ans. Donc, avec espoir, but de Bessemani. Chelsea. Ouais. Avec l'affrontement des 2 gardiens sénégalais, Edouard Mendy et Alfred Gomis. Donc Chelsea qui est un peu en crise avec Lampard malgré les 300 millions qu'ils ont dépensés. Puis Krasnodar qui est pas mal, qui est un peu faible sur le côté droit. J'ai regardé un petit peu, qui a un flanc droit qui est un peu faible, qui a un arrière droit, puis qui on peut attaquer avec. Ça va être intéressant avec le Terrier à gauche, ça va être très intéressant. Je pense que.
Voilà. Là, on a un énorme coup de bluff. Très réussi, mon Gilbo. Très réussi. L'homme qui connaît Krasnodar. Fredo ?
Est-ce que je n'avais pas compris le nom du dernier club ? Dans la bouche de Gilles, je n'avais pas compris ça.
Il avait rajouté un S, je crois. Par contre, il connaît tout l'effectif, apparemment.
On sent le spécialiste.
Il a l'air costaud. Alors, est-ce qu'on en avait déjà parlé, évidemment, en juin, mai-juin? Est-ce que Rennes vient nous faire du Lille? Est-ce que Rennes vient nous faire du Marseille il y a quelques années? Est-ce que Rennes vient faire de la figuration? Ou est-ce qu'on fait plus que ça? Tu dis qu'on peut battre Séville éventuellement. Est-ce que c'est des on peut hypothétiques, même si c'est presque une lapalissade? Mais est-ce que on va quand même figurer dans ce tableau, Fred?
Ah, je pense qu'ils ont une vraie chance. Chelsea au-dessus, c'est clair, mais derrière ça peut bagarrer et franchement ils sont solides en début de saison. Séville c'est effectivement jouable, Krasnodar aussi, ils ont une vraie chance. Ils ont une vraie chance. Donc, j'espère qu'ils vont la saisir, mais ils ont une vraie chance.
Ouais, ben, dis donc. Ouais,
Nico. Le problème, ça va être pour Rennes d'enchaîner championnat où ils tournent du feu de Dieu actuellement aussi. Et des semaines à deux matchs. Est-ce qu'il y a un effectif pour ça? Donc, clairement, est-ce qu'il va falloir qu'ils donnent une priorité Ligue des Champions ou championnat? Parce que je ne pense pas qu'ils puissent jouer sur les deux tableaux de façon pleine et totale.
Je te donne la parole, Gilbo, mais Nico, tu es quand même athlète de formation. Tu es coureur de 400 haies, qui est peut-être la plus grosse ignominie qui existe dans le sport. Et tu vas me faire croire, tu fais partie de ces gens qui croient qu'on ne peut pas faire deux matchs de foot dans la semaine.
Si, physiologiquement, oui. Physiologiquement,
les mecs, on se casse se bouger le cul à l'entraînement.
Mentalement, les mecs vont obligatoirement avoir une priorité.
Ah ben si tu veux, parle-moi de ça. Mais moi, arrêtez le cirque de on joue 2-3 fois par semaine. Mais les mecs, c'est 90 minutes et sur les 90 minutes, vous en courez 45. Alors arrêtez de me faire croire que c'est difficile. Vous êtes des pros, vous avez que ça à foutre. Hein. Fred.
Ce qu'il faut voir aussi, c'est que Rennes a étoffé son effectif. Hein. Donc je pense qu'ils l'ont, ça ils l'ont intégré, le fait qu'ils allaient devoir jouer sur deux tableaux. Après, où Nico a raison, c'est que le côté mental, ils n'ont pas l'expérience, donc je pense que ça a bouffé beaucoup beaucoup d'énergie. Mais au niveau du staff, ils ont fait le job, ils ont doublé les postes. Je pense que ils vont vraiment jouer leur chance, ils ont leur chance dans cette phase de poule.
Ouais, j'ai le beau.
Bah ouais, c'est ce que je voulais dire, parce que tu vois, par exemple, l'autre fois, t'as Fatou Mawasa qui se blesse. Il faut rentrer Adrien Truffert, 19 ans du centre de formation, le mec qui nous gagne le match contre Monaco. Quoi. Donc, clairement, tu as plein de jeunes derrière qui peuvent jouer en Ligue 1. Après, ils peuvent assurer en Ligue 1. Après, ça va être un handicap sur la Ligue 1, hein, clairement. Mais bon.
Tout le monde dit quand même que la Ligue des Champions, c'est la marche au-dessus. Donc, le mec, peut-être qu'effectivement, il peut performer en Ligue 1. Après, de là à être vraiment performant, quand il voit la Stamford Bridge ou à Séville, je pense que le mec est très, 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 très fort et c'est une révélation.
Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont doublé tous les postes et ils ont deux équipes pour jouer en Ligue 1. Après, ils feront l'équipe type pour la Ligue des Champions, on est d'accord. Mais si tu veux, ils peuvent faire tourner, quoi. Ils peuvent faire tourner.
Lionel ? Oui, juste une remarque qui n'est pas une remarque très sportive, mais c'est le côté public, parce que c'est vrai que si on continue sur un Covid avec des belles affiches de Ligue des Champions, avec un superbe public de 1000 personnes qui pourraient arriver au Roazhon Park, ça va être dur, c'est moche.
C'est très moche. C'est Fred, excuse-moi Fred.
Non, moi j'ai surtout hâte de voir Kamavinga jouer en Ligue des Champions. J'ai envie de voir un peu ce qu'il peut donner face à une vraie opposition. Ça serait assez sympa contre Chelsea, face à N'Golo Kanté, etc. Ce que ça peut donner.
Mais tu l'as déjà vu en équipe de France. Bah, le mec, il avait le niveau.
Mais équipe de France, c'est encore des matchs en bois. Je veux le voir sur une vraie compétition, la plus grosse compétition en l'occurrence, et face à son alter ego. Ça va être intéressant d'un point de vue.
D'accord. Par rapport à ce que tu disais, Nico, sur le fait que on n'a pas forcément de profondeur de banc, ça va être compliqué pour le championnat derrière, on hypothèque nos chances et blabla, enfin si je me mets côté Rennais, pourquoi alors on bataille pour cette troisième place de Ligue des Champions? Pourquoi on n'accepte pas tout simplement qu'on ait un petit championnat et à ce moment-là, on nous donne deux places en Ligue des Champions et on va arrêter de chialer auprès de l'UEFA qu'on en veut trois parce que la troisième, on la joue
plus. Financièrement, ça intéresse les clubs, tout simplement.
Oui, non, mais d'accord. Mais il y a l'intérêt financier du club français qui aura la chance d'y aller. Mais après, il y a l'intérêt sportif de toute l'Europe. Est-ce que toute l'Europe a envie d'une France à trois équipes? Ben non. On a tous envie d'une Angleterre à quatre ou cinq équipes, d'une Espagne à trois équipes.
Non.
Mais on ne mérite pas trois clubs, les mecs. On ne mérite pas trois clubs. Vous rigolez ou quoi? On va encore amener Rennes se faire liquider. On a amené Lille se faire liquider. On a amené Marseille il y a trois ans se faire liquider. À quoi ça sert qu'on ait une troisième place? On n'est rien sur l'échiquier européen. Alors on dégage.
Arrête un peu.
Fred. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. La preuve, la dernière phase finale, on a un finaliste et un demi-finaliste. On mérite bien une troisième place. Si nos deux équipes vont en demi-finale et en finale, ça veut dire qu'il y a la place pour en mettre un troisième.
Donc tu fais partie de tous ces championnats qui ont deux têtes de gondole et puis derrière c'est y a rien. Nous c'est ça et on le sait quand même ça, Nico.
Ouais, mais c'est vrai en Espagne aussi. T'enlèves le Real et le Barça derrière.
Ouais. Voilà. Ah, t'as la Ligue qui tourne. Mais je suis d'accord avec toi.
En même temps, si tu limites à deux pour le championnat français, ça veut dire que tu vas mettre quoi? Tu mets que les grosses écuries, donc l'argent de la première ligue. Clairement.
Qu'est-ce que tu veux?
Donc après, ça revient au débat de la ligue fermée, d'une ligue des champions fermée, avec 16 clubs qui sortent pas, qui rentrent pas. Où est l'intérêt?
Donc toi, tu t'es payé RMC, Nico, tu t'es payé Bein Sport, tu t'es payé Canal, tu t'es payé machin truc chose, et tu vas aller regarder Saint-Etienne, Krasnodar en Lidej. Ben moi j'en ai rien à foutre, ouais, moi, des équipes comme ça. Moi ce que je veux voir, c'est Bayern Manchester que j'ai envie de regarder. J'ai pas envie de regarder un troisième du championnat de France. On sait même pas qui c'est, les mecs. Fred.
Ouais, enfin, si tu regardes footballistiquement, le Barça et le Real l'an dernier, c'était nul à chier. Ouais. Tu regardais les matchs du Real, tu te faisais, pardonnez-moi l'expression, tu t'ennuies à mourir, quoi. Donc, non, je suis pas d'accord avec ça. En plus, je trouve que Rennes, ils ont fait le nécessaire pour renforcer l'équipe. Bien évidemment, on n'attend pas à ce qu'ils soient en demi-finale ou en finale, mais je pense qu'ils peuvent sortir du groupe. Ils sont armés pour. Alors, on verra ce que ça va donner en match, ils vont pas être ridicules.
Benoît, tu auras des beaux matchs avec Paris, là, qui est un groupe difficile, Manchester United et Leipzig.
Vas-y, dis-nous, Paris.
Manchester United et Leipzig.
D'accord. Ça donne quoi, les autres, là? T'as Marseille s'est tiré Porto. Aussi, évidemment.
City et Porto.
Ouais. City, Porto, l'Olympiakos.
Bon, City, les équipes françaises gagnent toujours. Donc ça, c'est bon.
Ah ouais.
Moi, je ne fais pas une pièce pour l'OM.
Ouais,
moi je suis inquiet pour l'OM. Hein.
Je pense que Rennes a plus de chances de passer que l'OM pour moi.
Ouais, clairement.
Heureusement, l'OM fait un bon début de championnat. Ça va.
Non, Paris a un groupe difficile. Hein,
alors, Paris, t'annonces quoi, Gilbo?
Manchester United et Leipzig est quand même quart de finaliste de la Ligue des Champions.
Donc, ah, d'accord.
C'est pas bon. Basse-Tir.
Ouais, mais bon, très clairement, Paris maintenant, c'est un top 8 européen. C'est même très certainement un top 6, même si les tiers de finale, ça n'existe pas. Mais c'est quand même dans les 6 meilleurs clubs européens. Il faut que ça le reste au sommet. Enfin, il n'y a plus moyen de se cacher. C'est comme ça. Oui. Ça doit être établi, le truc. Fred.
Ouais, moi, je ne suis pas inquiet pour Paris. Hein.
Non, bien sûr que non.
Il n'y a pas inquiet pour l'OM.
Oui, non, mais évidemment, mais il va y avoir quand même des matchs, il va falloir qu'ils jouent la phase de poule correctement. Quoi. C'est pas la balade. Attention.
Non, ce n'est pas la balade.
United, ils n'ont rien à envier à Paris au niveau effectif. Enfin, effectif, oui, mais financièrement, ainsi de suite, c'est des trucs énormes. C'est des 500 millions de budget, c'est les mêmes. C'est la même catégorie.
Oui, c'est la même catégorie.
Si on critique beaucoup Paris, tu as quand même un paquet de clubs, oui. Et ils n'avancent pas non plus. Manchester. Il y a le pognon énorme, ça n'avance pas depuis des années. Voilà. Ouais. Paris, on tape dessus sans arrêt. Bon. Bref.
Parce qu'on a que ça à faire en Ligue 1 de cracher sur Paris. Tout le reste, c'est ennuyeux. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans notre chère Ligue 1 Rennes, tu es en tête, je crois, Gilbo?
Oui, absolument. Ouais. Ouais, très bon. Ouais. Et Rennes en tête, ils avaient commencé les dernières, mais là, cette année, c'est plus maîtrisé. Et ça joue franchement pas mal du tout. Quoi. J'ai vu Monaco et puis j'ai vu qu'à Saint-Etienne, ils se sont baladés. Donc, ça tient la route. Ouais. Mais après, voilà, c'est vraiment grâce à la Ligue des Champions parce qu'ils ont gardé leurs joueurs. Ils ont gardé leurs joueurs, ils se sont renforcés.
Ouais, il y a ça aussi.
Ah bah c'est le jour et la nuit. Quoi. Et c'est vrai qu'année dernière, ils ont gardé leur effectif, leurs meilleurs joueurs, et ils se sont renforcés. Alors que l'année dernière, on avait dit oui, mais l'année dernière, ils ont gagné la Coupe de France et ils ont perdu tous leurs meilleurs joueurs. Et l'ossature complète de l'équipe. Tandis que là, franchement, on sent que ça monte en puissance, c'est structuré, ça tient. Et le recrutement n'est pas fini. Ils vont nous sortir
quelque chose. Ben Arfa est annoncé.
À Saint-Etienne, je crois.
Il est annoncé à Bordeaux.
Ah oui.
Ça y va, les annonces aussi. Hein. Et donc on va suivre ça de près. PSG qui n'est pas premier, c'est ça l'événement du championnat du moment. Tant mieux. Qu'est-ce qu'on suit d'autre en ce moment en Mayenne, messieurs? Rien de spécial.
Le stade Lavallois qui est en tête.
Voilà, du local. Ça, c'est bien, il faut le signaler. Ça, le stade Lavallois en tête large. On est comment, Fred, dans les matchs là?
On est premier, mais avec un match d'avance. Donc, on a un point d'avance sur Bastia. Mais au niveau football, bon, bah, c'est pas trop mal. Et puis, mis à part un accro sur le deuxième match, ça tient à peu près la route. Et je tiens à préciser qu'au moins à Laval, on n'est pas perturbé par la jauge à 5000 spectateurs.
Ils ont leur public habituel.
Eh ben, on en a de la chance. On finira peut-être cette émission, messieurs, par un petit débat. Fred ?
Non, je voulais qu'on en fasse un petit message pour Arnaud Courteil, qui arrête sa carrière pro. Malheureusement pour lui, il a chuté sur Paris-Camembert, donc il finit avec une fracture de la clavicule et une entorse des cervicales. Mais une pensée pour lui, parce que c'était sa dernière saison chez les professionnels. Ah, donc, bon courage à lui.
Qu'on a eu la joie de recevoir. Bravo Arnaud pour ta carrière, évidemment.
Oui, un dernier petit mot, j'étais pas là, mais le 22 août, notre ami Jordi Weiss a encore gagné son dernier combat, donc 27 victoires, 27 combats. Voilà, ça continue son petit train de professionnel.
Et dis donc, on ne reçoit que des stars, tu es en train de nous dire. Mais c'est formidable, ça, formidable. Finissez, messieurs, avec l'adage, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette petite phrase ou vous n'êtes pas d'accord avec cette petite phrase? Je vous dis ça tout simplement parce que moi, je viens de reprendre le foot et je peux vous assurer que ce n'est pas comme le vélo, suffit pas de tourner les pieds. Je suis perdu sur le terrain, je ne sais plus où je suis une pompe et ça m'agace prodigieusement parce que je ne comprends plus où il faut se placer. Est-ce que vous pensez qu'il y a des sports qui reviennent naturellement ou il y a des sports, franchement, on peut perdre son jeu?
Ah, Lionel, tu ne perds pas ton jeu, tu perds ton niveau parce que je pense que faire du vélo et gagner des courses en vélo, c'est pareil. Quoi. C'est valable aussi pour la natation. On ne va pas se noyer parce qu'on a arrêté la compétition, mais tu ne vas pas faire de grands exploits en natation.
Ouais, d'accord, mais tu vois, Flo Manodou, quand il revient, il s'est quand même arrêté plus de 2 ans, le mec, je crois. Et ben le gars revient en l'espace de 4, 5, 6 mois, il est dans les 7, 8 mondiaux, quoi. C'est
énorme.
Bah, c'est monument, quoi, Fred.
Ouais, mais là, il est sur une discipline particulière, il est sur le 50 mètres. Où là, ouais. Faut avoir la caisse, faut être. Voilà. S'il avait fait ne serait-ce que du 200 mètres, il ne serait jamais revenu. Parce que sur du 200 mètres, il faut avoir fait du fond, il faut être en place techniquement et tout. Sur 50 mètres, c'est un voilà. On a Anthony Irvine qui a été un nageur de nage libre américain qui s'est arrêté 8 ans, qui est revenu, qui a été champion olympique. Anthony Irvine, c'est des choses qui se font sur 50 mètres. Voilà. Ouais. Je pense que Usain Bolt sur 30 mètres, il est encore très fort. Donc
ça se voilà. Perd pas l'explosivité.
En natation, pas le 150 mètres, c'est ce qui se retravaille le plus facilement.
D'accord. Nico ?
Juste pour l'anecdote, Janine Longo a gagné un contre-la-montre. Les championnes régionales, région Rhône-Alpes ou PACA, un truc comme ça, là. Elle gagne encore à 60, elle doit avoir 61 ou 62 ans. Elle gagne encore contre des gamines de 20 et quelques ans, de 20 et quelques années.
Juste pour l'anecdote. On n'a pas fini d'entendre parler de Wout Van Aert, alors.
Ah ouais. Je pense qu'effectivement, on a pour un bout de temps. Non, ce que tu perds, c'est pas ta technique, Benoît. Il y a peut-être aussi l'aspect physique ouais. Qui fait qu'à un moment donné, tu ne sais plus où te placer parce que tu es limité physiquement aussi.
Ouais, bah oui, très certainement. Mais moi, je me pose la question parce que physiquement, moi, j'ai fait un énorme boulot en août et pourtant, je reviens dans quasiment la plus petite division du championnat de foot français. Mais j'ai quand même fait un gros travail physique pour me dire, je vais arriver dans les meilleures dispositions possibles. Et à l'arrivée, ça ne suffit pas. Je ne sais pas où je suis sur le terrain. Fred.
Ouais, mais c'est aussi parce que tu n'as plus les mêmes partenaires.
Ouais,
tu n'as plus les mêmes automatismes. Parce que dans les sports collectifs, tu peux très bien t'intégrer dans un groupe, dans un collectif, dans une équipe. Les rouages sont parfaits. Et donc, tu restes avec cette image-là. Et puis là, tu tombes dans une autre structure où tu as peut-être deux gars qui ont les pieds carrés ou qui ne te comprennent pas à côté, qui ne te donnent pas le ballon au bon moment. Donc, tu as l'impression d'être tout le temps à contre-temps. Et c'est ça aussi qui fait que tu perds beaucoup de fluidité, quoi.
Ouais, mais bon, là, on peut toujours se cacher derrière ses partenaires. Hein. Moi, je sais très bien que quand je ne suis pas bon, je ne suis pas bon. Et je pense à tous ces sports-là où on, on se dit, on a des certitudes, il y a des choses qu'on sait faire, on sait faire un contrôle de balle, on sait lancer une balle, on sait machin, et ben finalement, c'est plus si simple que ça. Alors que quand je regardais Thiago Motta, pour les connaisseurs de football, c'était à 3-4 ans au PSG, Thiago Motta, à mon avis, il pouvait jouer jusqu'à 50 balais, tellement le mec était élégant sur le terrain, il voyait tout avant les autres, il jouait tout simple, hyper simple, et c'est à ça que je voulais ressembler, ben, sauf que ça ne marche pas aussi facilement que ça. Gilbo, non, il s'était pas arrêté lui.
Gilbo. Ouais, non, surtout que c'est vraiment pas ton style de rejeter la faute sur les autres, c'est sûr.
Tu as pratiqué un peu de sport avec moi, peut-être, Gilbo.
Fred. Ouais, moi, j'ai un super contre-exemple. Tu prends Reynald Pedros, qui avait un super toucher de balle, qui était facile, etc. Donc, qui a joué au FC Nantes, qui a été champion de France. 7 ans après, il joue en CFA2. Et pourtant, c'était un joueur énorme. Donc, quelque part, tu dépends aussi du collectif, tu dépends énormément de l'équipe dans laquelle tu évolues, quoi.
Ouais. Ça dépend un peu aussi du style de l'équipe. Là, tu nous parles du grand FC Nantes où on parlait tous à dans notre génération de jeu à la nantaise. Comme aujourd'hui, on va te parler il y a 10 ans du jeu à la barcelonaise qui est un peu en train de se perdre. On va voilà. Ça, quand t'es formaté dans des systèmes comme ça, bien sûr, c'est plus dur de se réinventer. Mais est-ce qu'on peut simplement rejeter la faute là-dessus ou on peut pas aussi faire une certaine autocritique et se dire j'ai vieilli et je suis moche tout simplement.
Bah, il y a ça aussi effectivement, c'est sûr. Mais comme pour reprendre l'exemple de Fred, effectivement Pedros, il vivait au sein avec l'équateur Wedek, Loco et j'ai perdu le quatrième.
Ferry. Carambeu
entre autres.
Mais, Carambeu, Ferry.
Ferry, c'est ça. Mais tout seul, bah, il est totalement perdu, effectivement. Il n'a jamais retrouvé la fluidité collective. Alors effectivement, il y a une grosse différence entre un mec qui est tout seul sur son vélo et au milieu de 10 mecs. Mais un Wout Van Aert à la Groupama FDJ, qu'est-ce qu'il fait?
Ah bah là, je ne sais plus, Nico, attention.
Du cyclo-cross.
Ouais, vous n'êtes pas concernés, messieurs, parce que vu votre niveau de volleyball, je sais que vous ne le perdrez jamais. Mais sachez que c'est dur de passer du rang d'idole à celui de joueur lambda. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Vous avez été bon durant ces vacances, messieurs. Ça a couru un petit peu, Nico. Tu t'es maintenu en forme, je crois, tu nous avais dit. Hein.
Un petit peu.
C'est bien.
Tu m'as vu, on a dû faire un parcours à Saint-Berthevin ensemble.
À Saint-Berthevin. On conseille d'ailleurs à tous les Lavallois, tous ceux qui habitent dans le coin, dans un rayon de 20 bornes à peu près, d'aller sur ce fameux site de Coupeau à Saint-Berthe où ils ont tracé un trail de, c'est 8 km, je crois.
8 km.
Et qui est vraiment extra. On a l'impression d'être en pleine nature sauvage. Ils ont réussi à trouver des bosses incroyables et ça n'arrête pas de monter et descendre. Vous avez l'impression tout simplement d'être dans un des grands trails de France. C'est top. On vous conseille de faire ça. C'est près de chez vous. C'est à votre porte et vous passerez très certainement un bon moment. Lionel, est-ce que cette première édition t'a ravi?
Elle était fabuleuse. On se retrouve, ça fait du bien. On croyait qu'après les vacances, ça allait être triste. On croyait qu'avec l'hiver qui arrivait, ça allait être triste. Mais non, il y a Sport Epic, Sport Epic,
Sport Epic. Bon, on va s'arrêter là. Merci Nico, merci Gilbo, merci Frélo, merci évidemment mon Lionel qui était avec moi. Oh, chers auditeurs, auditrices, on vous remercie énormément de continuer à nous suivre. Je vais dire comme tout le monde, comme tous les animateurs, vous êtes de plus en plus nombreux, sachant que j'en sais rien du tout. Et allez, on vous souhaite un très bon dimanche et à dans 2 semaines. La vie à tous.
Salut.